que la révélation dans chapitre 1 nous montre que Christ, tout aujourd'hui, qui marche au milieu des églises, est ce grand souverain sacrificateur céleste, selon l'ordre de Melchisédek. Et l'écriture est surprenante. Souvenez-vous, un sacerdoce sans souverain sacrificateur est impossible. Ça ne peut pas être ainsi. Je ne sais pas quelle sorte de sacerdoce nous allons avoir. Le sacerdoce doit être à 100% un avec Dieu. Je sais, c'est un standard très élevé. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi la tribu de Lévi pour être les sacrificateurs, une tribu de sacerdoce? Pourquoi? Parce que les 12 tribus à cette époque sont tombées. Quand Moïse est monté sur la montagne pour avoir de la communion avec Dieu, pour recevoir les 2 tables des commandements, le peuple n'a même pas pu attendre 40 jours, juste 40 jours. Ils n'ont pas pu attendre. Alors ils ont fait le veau d'or. Et ils ont adoré le veau d'or. Et Dieu était en colère. Et c'est Moïse qui a calmé la colère de Dieu d'une certaine manière. Moïse est descendu. Moïse était fâché et en colère. Il a brisé les 2 tables du témoignage. Cela montre à quel point il était en colère. Il a oublié qu'il y avait des choses de Dieu écrites sur ces tables. Aujourd'hui, ces tables vaudraient des milliards. C'était si précieux. Il les a brisées. Car il était si fâché. Cela montre aussi que le peuple de Dieu n'a même pas pu garder les commandements de Dieu. Même pas un commandement. Comme lors de la dernière conférence, Munchang a dit combien de commandements Dieu a donné à Adam et Ève. Un seul commandement. Quel était ce commandement? Ne mange pas de cet arbre. Parce que si tu manges de cet arbre, tu vas mourir. Tu vas certainement mourir. Juste un commandement. Peut-être que je dois m'asseoir et quelqu'un d'autre donne le message. Ah, c'est la traduction thaïlandaise. Ils n'ont même pas pu garder un commandement. Et Dieu en a donné 10. Si Adam et Ève n'ont pas pu garder un seul commandement, ils n'ont rien pu garder. Même lorsque les commandements n'ont même pas été donnés, ils ont déjà brisé le premier. Ils ont adoré le veau d'or. Cela montre à quel point l'être humain est déchu. Nous ne pouvons pas garder les commandements de Dieu. À moins que sa vie nous soit donnée. Seulement par sa vie, nous pouvons garder ses commandements. Ici, nous pouvons voir ce que Dieu veut comme ce souverain sacrificateur. Il veut conduire les églises de l'avant. Cela nous montre que toutes les églises, aujourd'hui, doivent être un royaume de sacrificateurs. Sinon, pourquoi avons-nous besoin d'un souverain sacrificateur? Cela nous montre que les églises doivent être un royaume de sacrificateurs pour Dieu. C'est si simple à comprendre. Tu n'as pas besoin d'étudier la théologie pour comprendre cela. Aujourd'hui, pour mettre en pratique le sacerdoce, nous avons besoin du souverain sacrificateur. C'est très important. Si vous lisez le livre d'Hébreux au chapitre 8, qu'est-ce que Paul a dit? C'est le point principal de ce qui vient d'être dit. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. C'est la chose capitale. C'est le focus, l'orientation. Nous avons besoin de ce souverain sacrificateur. Sans lui, comment allez-vous le pratiquer? Qui va vous corriger? Qui va vous montrer le standard, sa volonté? Souvenez-vous, même le Seigneur, lorsqu'il est ressuscité des morts, il a dû monter vers le Père directement pour se présenter en tant que ce prémisse pour Dieu. Seulement le Seigneur peut satisfaire le Père. Pour pratiquer le sacerdoce, qui peut être comparé à lui? Il a même dit, à un autre endroit, si vous ne détestez pas, si vous ne haïssez pas votre femme, vos enfants, votre mari, vous n'êtes pas digne de moi. Quoi? Le Seigneur est en train de t'enseigner à détester ton père? Non. Si quelqu'un se tient entre toi et Dieu, alors sors ton épée. Coupe cette relation. Ça signifie que tu choisis Dieu. Ça signifie pas que tu dois tuer ton père ou ta mère. Le Seigneur n'a certainement pas voulu dire cela, mais il veut vous montrer qu'il est Dieu. Il est Dieu. Qu'est-ce qui est plus important dans cet univers, dans ta vie, que Dieu lui-même? La tribu de Lévi, comme récompense, Dieu a donné comme cadeau ce privilège, le sacerdoce. Le sacerdoce est un privilège, mais ensuite, en tant que sacrificateur, tu dois écouter Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez voir beaucoup d'hommes qui suivent des hommes qui ne sont pas obéissants au Seigneur. Même si des personnes disent des choses contraires à la parole, est-ce que tu vas continuer de les écouter? Ou est-ce que tu vas écouter Dieu? Choisis. Mais si tu veux garder le sacerdoce et le mettre en pratique et le perfectionner, alors tu dois avoir l'esprit de la tribu de Lévi. Être du côté du Moïse, qui était du côté de Dieu. Louez le Seigneur. C'est une parole sérieuse, mais que pouvons-nous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est écrit, donc c'est ainsi. La première chose que nous devons toucher en tant que sacerdoce, nous devons expérimenter Christ comme notre holocauste. L'entier est consumé pour satisfaire Dieu et pas pour satisfaire les hommes. Est-ce que vous êtes vraiment pour le plan de Dieu, pour sa volonté? Est-ce que votre vie est pour Dieu? Cette question, beaucoup d'entre nous doivent se la poser. Est-ce que tu es volontaire d'abandonner ceci ou cela pour Dieu? Ou est-ce que Dieu n'est pas si important pour vous? On entend cela, on a l'impression que John, tu es beaucoup trop extrême, mais non, je ne le suis pas. J'aspire à être absolu pour Dieu, mais je ne le suis pas, comme le Seigneur était absolu pour Dieu. Il n'a jamais fait un quelconque compromis. Même quand le diable est venu le tenté, il ne lui a pas donné un millimètre de terrain à Satan. Il a tenu ferme pour Dieu, il était victorieux. Il n'a pas cédé à une quelconque pression du judaïsme de toutes ces personnes. Quand il était sur cette terre, la seule nourriture pour lui était d'accomplir la volonté du Père. Il était absolument un avec le Père pour sa gloire sur cette terre. Le sacerdoce. Dans le sacerdoce, on doit expérimenter Christ en tant que cet holocauste, être pour la volonté de Dieu, et ensuite l'humanité du Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez du péché dans l'humanité du Seigneur? Non. Son humanité est parfaite. En lui, le péché ne s'est pas trouvé. Loué le Seigneur. Il a été tenté en toutes choses, comme nous, mais sans commettre le péché. Car il était né d'une vierge. La conception était par le Saint-Esprit. C'est le Fils du Dieu Très-Haut. En fait, il est Dieu lui-même. Il a vaincu toute chose. Même jusqu'à la fin, quand il y a le plus grand test qui vient, être crucifié à la croix. Il a dit, Père, si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi, combien de fois as-tu dit cela à Dieu? Mais j'aime bien la deuxième partie du verset, non pas ma volonté, mais ta volonté. J'ai dit au Seigneur beaucoup de fois, Seigneur, c'est trop difficile, je ne peux pas le faire. C'est si difficile. Pourtant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Louez le Seigneur. Nous avons Christ dans sa parfaite humanité. Il a traversé toutes sortes de tests. C'est pourquoi il est écrit que la fleur de farine doit être pétrie et cuite de différentes manières. Le Seigneur a passé à travers toutes ces épreuves et la dernière épreuve était la mort à la croix. Et à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Si quelqu'un offense, tu peux même pas lui pardonner, même pas l'oublier. Tu dis ok, je vais oublier. Je te pardonne, mais j'oublie pas. À chaque fois que je te vois, tu te dis ah oui, je me rappelle de cela. Je ne sais pas quelle sorte de pardon il s'agit. Mais le Seigneur dit s'il y a de l'iniquité, de l'injustice. Est-ce qu'il a dit qu'il se rappellerait de l'iniquité? Non, je ne m'en souviendrai plus. C'est si merveilleux, c'est la nouvelle alliance. Je suis heureux que le Seigneur m'ait pardonné tous mes péchés. Comme David qui a confessé à Dieu dans le psaume 51, il a même dit « Je suis né dans l'iniquité ». Ça signifie qu'il remonte ce péché à la nature de sa mère. Quelle confession! Jusqu'à sa naissance, il remonte le péché. Je ne sais pas si j'ai confessé une fois à Dieu mes péchés de cette manière. Que le Seigneur œuvre en moi. Louez le Seigneur. Nous avons un tel Christ merveilleux, tous ces merveilleux aspects, l'offrande pour le péché, les transgressions, l'offrande de paix, cette merveilleuse offrande d'appel, l'offrande élevée par élévation, la résurrection de Christ. Nous avons besoin d'expérimenter en tant que sacerdoce, d'être perfectionné et devenir ces chandeliers d'or. Je ne peux pas entrer dans les détails en 5 minutes. Mais la première chose dont tu dois te rappeler est la nature du chandelier. C'est de l'or. C'est la nature divine. Souviens-toi du psaume 19. La parole de Dieu est plus précieuse que quoi? Que l'or. Même si sa parole est en or, tout ce qui sort de la nature de Dieu est en or. Éprouvé par le feu. Il y a une église qui dit qu'elle est riche, mais riche en quoi? En théologie, en connaissance de la Bible? Ça n'est rien, c'est juste un morceau de papier avec de l'encre noire. Il y a une certaine interprétation de quelqu'un. Pierre dit, la première chose que vous devez faire quand vous lisez la parole, il n'y a pas d'interprétation personnelle. N'importe quelle interprétation personnelle n'a pas de prix, n'a pas de valeur. L'interprétation de Witness Lee donne beaucoup d'exemples. Aucune interprétation ne peut remplacer la parole de Dieu. L'or, est-ce que vous voulez de l'or? Alors allez la chercher, allez le chercher. Non, ne me demandez pas comment faire. Allez vers lui, lui est là, il va vous le donner. Si vous voulez de l'or, allez vers lui. Cette sorte d'or, vous ne pouvez pas l'acheter dans une compagnie quelconque. Vous pouvez acheter de l'or, mais c'est de l'or terrestre. Lorsque le Seigneur revient, ça ne représente rien. Nous voulons de l'or véritable, qui est Dieu lui-même en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. C'est l'élément le plus précieux dans cet univers entier. Sans cet or, nous ne sommes rien. Va acheter de l'or. Pas juste d'avoir de l'or, mais cet or doit être bâti pour être un chandelier, un talent. Jusqu'à ce moment, je ne peux pas m'imaginer comment quelqu'un peut faire un chandelier d'une seule pièce d'or pur et puis le façonner en le martelant pour qu'il devienne un chandelier merveilleux qui soit debout avec 7 lampes, ensuite avec de merveilleuses fleurs d'amande. Est-ce que tu peux faire ça? Ce n'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que toi et moi, nous ne pouvons pas bâtir l'Église. J'ai entendu un vieux frère qui disait, sans mon ministère, où est-ce que l'Église serait? Wow, il doit être Dieu. Et finalement, il a dit aux gens même qu'ils peuvent devenir des dieux. Qu'est-ce que c'est triste, ô Seigneur. Cela montre qui peut bâtir un tel chandelier. Même si vous avez l'or, essayez de le marteler pour qu'il devienne un chandelier merveilleux. Est-ce que tu es capable de faire cela? Je sais que tu as des frères très pratiques ici qui sont excellents. qui font une copie. Mais c'est une copie. Ce n'est pas un chandelier. Personne ne peut faire un travail si minutieux, si précis. Ce n'est pas étonnant qu'Abraham a dit qu'il attendait une cité. Le tabernacle de Dieu, ce tabernacle céleste qui n'est pas fait de main d'homme, pas de cette création. Et il est en train d'attendre cette cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu lui-même. Penses-tu qu'un homme quelconque puisse bâtir cela? Ça va être vraiment le désordre catholique. Le désordre catholique. C'est le plus grand désordre existant. Personne ne peut bâtir cette œuvre. Pourquoi les amandes? Pourquoi ces merveilleuses fleurs? Ça signifie quoi? Utilise tes outils, essaye de faire ça. Tulipe, il parle de tulipe. Tu mets un grain de tulipe, tu plantes et d'un jour à l'autre, ça devient une tulipe. Qu'est-ce qui est venu? Ce sont des amandes. Exactement. La même chose que dans les chandeliers. Que représentent les amandiers? C'est le premier arbre qui fleurit au printemps. Ça signifie la puissance de résurrection. Est-ce que la verge, si elle tombe, elle peut fleurir? J'ai quelques bâtons à la maison. Mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui fleurit. Ce sont des bâtons morts. Tu as déjà expérimenté cette verge qui fleurit. Mais la verge d'Aaron, d'un jour à l'autre, a fleuri. Des fleurs d'amande. Cela montre que Dieu a choisi Aaron et lui a donné le pouvoir et l'autorité divine pour conduire les 12 tribus. À cause de la rébellion. Vous vous rappelez de l'histoire de Corée? La terre a englouti les rebelles. Ces chandeliers d'or, si tu les regardes, on dirait un amandier, un arbre d'amande. Avec chacune de ses branches, ça fleurit. C'est merveilleux. C'est comme un amandier, plein de vie, plein de puissance de résurrection. C'est si merveilleux. Il y a même un vase là. Ça signifie. Le Seigneur n'a-t-il pas dit détruis ce temple? Et en 3 jours, je le rebâtirai, pas en 2000 ans. Ça signifie. Il représente la puissance de la résurrection. Il est premier-né d'entre les morts. Il est la tête de toutes choses. Il l'a donné à l'Église. Le premier-né de la création. C'est le chandelier d'or. Et le centre est Christ. Et nous sommes les membres de son corps. Il n'est pas juste la tête. le chandelier entier doit venir de lui, du cep, de la partie centrale. C'est solide. C'est un chandelier tout en or, lourd, solide, pour donner de la lumière. Il y a 6 branches plus 1, 6 sur le côté, attachées sur la partie centrale. La lumière doit être complète. Combien de lampes avons-nous ici dans cette salle? Toutes sont allumées sauf une ici. Eh bien, il y aurait de l'obscurité là-bas. Mais pourquoi est-ce que vous avez changé toutes ces lampes? Parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Donc ils ont changé toutes les ampoules, en fait, pour avoir plus de lumière. Est-ce que l'église ici à Fountain Valley brille? Est-ce que toutes les lampes brillent? Qu'en est-il à Toronto, à Vancouver? À Chuchang? La lumière n'est pas assez brillante, ce n'est pas assez brillante. Elle doit être remplie d'huile chaque jour. Et d'où vient l'huile? Elle vient de l'esprit. Le Seigneur te donne l'esprit. La lumière qui brille, vous devez vous rappeler, dans le lieu saint, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de fenêtre, pardon. S'il y a des fenêtres dans cette chambre, il y a quand même un peu de lumière. Dans le lieu saint, la lumière dépend vraiment du chandelier, s'il brille ou non. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a plus besoin de lumière du soleil, ni de la lumière de la lune, parce que Dieu lui-même est la lumière, et Christ est la lampe. La cité entière est un chandelier. Est-ce que nous sommes en train de bâtir cela? DJ, est-ce que nous bâtissons ce type d'église? Ou est-ce que l'église, c'est juste, oui, je vais le dimanche, je passe un bon moment et puis ensuite je vais à la maison. Est-ce que ça, c'est le chandelier? Et le souverain sacrificateur devait entrer et couper, arranger la mèche chaque jour. Il devait couper la mèche. Parce que si la mèche était brûlée, alors la lumière ne brillera pas comme il faut. Il y avait même ce ciseau qui était employé pour cela, devait être en or. Si tu vois des problèmes dans l'église, ne viens pas juste avec un ciseau quelconque et tu coupes le problème. Tu vas tuer les saints. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Non. Tu as besoin des ciseaux en or pour couper la mèche. Et de couper avec beaucoup d'attention. Et ensuite, ne jette pas. Il y avait aussi un récipient en or. Tout est en or dans le lieu saint. Ça signifie que tout ce que nous faisons dans la vie de l'Église doit être issu de Christ. Pas de nous-mêmes. C'est un chandelier d'or. Si nous avons les yeux pour voir, nous voyons l'arbre de la vie. pourquoi pensez-vous que le Seigneur a dû donner un choix à quel arbre nous devons nous nourrir? C'est un arbre comme un amandier, plein de vie. Et chaque jour, de l'huile fraîche l'alimente. Le Seigneur n'est pas avec un gros réservoir. Et puis, tu le remplis qu'une seule fois, et puis ça suffit. Tu peux faire cela, mais pas pour le chandelier. Le chandelier n'a pas besoin d'un gros réservoir. Ce sont des petites calices. Tu dois les remplir chaque jour. Tu penses que si tu te remplis l'esprit, ça va durer pendant une année? Tu pourras prier pendant une année? Souvent, on a besoin d'ajouter de l'huile. Nous avons besoin d'être remplis d'huile quotidiennement. Comme dans les Actes, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, pas une fois pour toutes, non. Mais juste assez pour ce jour, pour porter le plan de Dieu. À chaque fois que quelque chose arrivait, eh bien, ils devaient être remplis du Saint-Esprit. Plusieurs fois, toujours, toujours à nouveau. Combien de fois dois-tu te nourrir? Une fois par mois? Combien de fois manges-tu? Trois fois par jour? Que dirais-tu de manger qu'une seule fois par jour? Ça suffit. Dieu aurait dû te créer avec un gros estomac. Tu devrais une petite tête et un gros estomac. C'est vivant. Tu as une personne vivante. Tu as un vaisseau. Tu es un vase organique. Tu n'as pas besoin d'un si gros récipient. Mais juste à bonne taille pour digérer. Ton corps est vivant. À moins que tu ne vives pas à Christ, c'est OK, mais spirituellement, tu as besoin de te nourrir chaque jour. Comment ça se fait qu'on mange, on mange pas tous les jours? Tu dors tous les jours? Certains s'exercent. Si tu veux servir Dieu, tu dois être rempli de ton esprit. Mais si tu es un serviteur qui dort, tu n'as pas besoin de te nourrir, pas besoin de boire. Si tu dors toute la journée, est-ce que tu as besoin de te nourrir? C'est la manière de vivre spirituellement. Seigneur, remplis-moi chaque jour. Quel est le problème avec nous, les vierges folles? Quel était leur problème? Est-ce que c'était des pécheresses? Non, c'était des vierges. Mais comment ça se fait qu'ils ne sont pas arrivés au but? Parce qu'elles n'avaient pas assez d'huile dans leur vase. Juste cette huile qui vient du Seigneur, qui vient dans leur estomac spirituel. Ce n'est pas ce qui va te faire monter à la montagne de Sion si tu ne te nourris pas assez. Leur problème, elles n'étaient pas remplies du Saint-Esprit. C'est un aspect. C'est ce que le Seigneur nous dit. Le chandelier dans le lieu saint signifie Dieu est lumière. C'est pour le temple. sans le chandelier, eh bien, le temple est dans l'obscurité. La lampe, dans Ézéchiel, verset chapitre 4, Zacharie 4, signifie la nation d'Israël. Elle doit être un chandelier. Et ensuite, tu dois avoir besoin d'huile. Ces deux oliviers approvisionnent constamment ce chandelier. Et ces deux arbres sont le sacerdoce d'une part, ça signifie le service sacerdotal, Aaron, et le sacrificateur, et l'autre part, c'est la royauté. Tu ne peux pas avoir un chandelier sans le sacerdoce et la royauté, ce n'est pas possible. Tu as besoin d'huile. Et ensuite, tu as les sept chandeliers dans l'Apocalypse. Ça signifie quoi? Ce sont les églises. Louez le Seigneur pour cette vision. Que le Seigneur vous montre, vous donne cette vision. Le Seigneur veut des chandeliers. C'est un mystère, le mystère des sept chandeliers. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup de choses. Vous savez déjà beaucoup de choses. Il faut pratiquer. OK? Louez le Seigneur. Le temps est passé. On va devenir tiède. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la vision des chants.